La France a bien du mal à trouver une solution à ce problème.
À partir de vendredi prochain, les choses vont sûrement changer.
Attendez une minute là.
Bonjour à vous, un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles, tous les premiers mercredis de chaque mois de 18h10 à 18h40 sur 3DFM. Un autre monde possible, c'est possible.
-0 4 5 28 96 71 71 71 72 45 -0 4 Deutsche Bank 22.
Bonjour aux auditeurs de 3DFM, bonjour à tous pour cette 44e émission d'Attaque Pays d'Arles, un autre monde possible. Aujourd'hui, en présence de Jérôme.
Bonjour.
Et moi-même. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une petite étude d'Attaque Pays d'Arles sur la success story irlandaise et ensuite, un peu plus interne, les groupes de travail. Donc on va peut-être commencer par cette petite étude inédite d'Attaque. Alors c'est Attaque Europe, hein. Vous avez dû le lire comme moi donc dans la presse, au 15 décembre 2013, l'Irlande est devenue le premier pays à sortir avec succès d'un programme de sauvegarde de la Troïka. Alors la Troïka, hein, c'est la Commission européenne, la Banque centrale européenne, donc la BCE, et le FMI. Alors les élites politiques européennes ont sablé le champagne en l'honneur de cette success story irlandaise. Après l'Irlande, on nous dit que ce sera le tour du Portugal. D'accord, mais qu'est-ce que c'est que cette success story irlandaise? Eh bien, le réseau des attaques d'Europe, en coordination avec Attaque Autriche et Attaque Irlande, ont publié une étude inédite à partir des chiffres officiels. Donc, jusqu'ici, ils étaient un peu dispersés, ces chiffres. On ne savait pas trop de quoi il s'agissait. Et l'enquête est bien sûr accessible sur le site d'Attaque France.
Donc, c'est ce que tu vas nous résumer, ça, un programme de sauvegarde de la Troïka.
Oui. Alors, un programme de sauvegarde de la Troïka, déjà, faut peut-être expliquer en quoi ça consiste, hein. Donc, il s'agit de prêter des fonds à un pays endetté pour le sortir de la crise. Alors, tout ça, c'est sous condition. Dans le détail, depuis 2010, donc, ce plan de sauvegarde, ça représente quand même la bagatelle de 67,5 milliards d'euros qui ont été versés sous forme de prêts à l'Irlande. Ben, en fin de compte, dans le calcul, on s'aperçoit que le montant global, c'est plutôt 89,5 milliards d'euros, qui a été donné aux banques et puis aux autres agences financières.
Oui, alors Dominique Plion, porte-parole d'Attaque France, résume ceci ainsi. Au cours de son soi-disant sauvetage, l'Irlande a mis plus d'argent dans le secteur financier qu'elle n'a reçu de prêts pour son renflouement. Tu peux nous expliquer un petit peu en détail?
Ça va être un peu barbare parce que c'est chiffré, mais bon, c'est, donc je te disais 89,5 milliards d'euros, mais c'est la répartition qui est intéressante parce que sur cette somme, donc il y a 18,1 milliards qui ont été utilisés pour le sauvetage direct des banques irlandaises, 14 milliards qui ont été utilisés pour la liquidation d'une compagnie, de liquidation des banques irlandaises, ça c'est quelque chose qui s'invente pas. 1,6 milliard ont été utilisés pour acheter les mauvais actifs immobiliers détenus par les banques irlandaises. Donc tout ça, c'est plus ou moins la même chose, hein. Mais par contre, 55,8 milliards, donc ça représente environ 62% du total, hein, sont allés dans la poche des créanciers de l'État irlandais. Alors les créanciers, tu me dis, c'est les banques étrangères, voilà, qui se goinfrent au passage de 18,3 milliards d'intérêts.
Waouh.
Voilà, mais comme c'était pas suffisant, une expertise qui a été commandée par le Parlement européen montre que la BCE, la Banque Centrale Européenne, a forcé le gouvernement irlandais à rembourser tous les créanciers, même ceux qui sont pas couverts par la garantie de l'État. En gros, ils ont menacé de suspendre le financement d'urgence des banques irlandaises. Voilà. Le FMI qui était pas d'accord, hein, il a eu beau insister sur le fait que le remboursement intégral des obligations non garanties, c'est comme ça que ça s'appelle, ne fait pas partie du mémorandum de sauvetage, la BCE, elle a protégé les investisseurs les plus spéculatifs tels que les hedge funds. Alors, les hedge funds, vous savez quand même, il s'agit de ces gentils fonds spéculatifs qui prêtent de l'argent aux banques à des taux élevés quand il est clair que celles-ci sont sur le point de s'effondrer, ou alors d'être secouru par l'État. Voilà, ça s'appelle prendre l'argent public et le mettre dans sa poche. Voilà, parmi elles, faut quand même les citer, hein. Il y avait Allianz, Barclays, le Crédit Suisse, la Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC et bien sûr nos amis de la Société Générale, hein, qui méritent un prix requin.
Oui, oui, enfin, t'es très négative, là. Il y a eu des conséquences sur la population irlandaise, conséquences qu'on imagine positives, quand même. Les banques sont sauvées, tout va bien, la crise est finie, ou presque. Retour à l'emploi, à la croissance, à l'investissement public.
Oui, bah, quand je te disais que ce sauvetage était sous condition, c'est que sous condition, ça veut dire que l'Irlande a aussi cofinancé son sauvetage. Donc ça, c'est à hauteur de 17,5 milliards d'euros. Dans le mémorandum, voilà, la Troïka, elle fait pas de cadeaux, quoi. Donc tu me donnes un peu pour que je te prête beaucoup, quoi. Donc l'État irlandais, il a ponctionné, ben où il a plu, hein, il était en crise. Donc il a pris notamment 10 milliards d'euros hein, au alors NPRF, donc c'est un fonds de pension publique qui servait à garantir les retraites. Donc cet argent-là, c'est parti direct pour recapitaliser les banques. Puis en plus, à la réflexion, en 2013, le gouvernement a décidé de transformer entièrement ce fonds de pension publique hein, en fonds d'investissement. Il s'est dit que la protection des pensions futures, voilà, c'était, alors je le cite, hein, plus une priorité. Voilà, hop. Ensuite, il a pris sur la TVA, l'impôt le plus injuste, hein, qui a augmenté à 23%, voilà. Et puis, il a aussi fait toute une ponction sur tout ce qui est prestations, allocations familiales, donc qui ont été divisées par deux, les allocations chômage pour les jeunes aussi. Puis, il a augmenté les frais de scolarité, voilà, qui ont triplé. Donc, pour s'inscrire à l'école, voilà, c'est 2500 euros, voilà. Au total, en gros, depuis 2008, tout ça, ça a coûté 28 milliards d'euros.
Oui, en résumé, la population irlandaise a payé et va continuer à payer pendant longtemps. Tu as parlé de frais de scolarité, tu as parlé de pension. Le sauvetage répété du secteur financier irlandais et international et européen par une austérité brutale.
Oui, ouais, ouais. Donc, les conséquences pour les Irlandais, voilà, c'est un tiers de la population qui est en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, une personne sur 10 qui souffre de la faim, les 10% les plus pauvres qui ont vu leurs revenus chuter de 26%. Bon, les 10% les plus riches, eux, ils ont vu les leurs augmenter du pourcent. Merci pour eux, hein, ça, tout va bien. Il y a un taux de chômage qui est passé à 13%, donc c'est deux fois plus élevé qu'avant la crise, hein, avec une mention spéciale sur le chômage des jeunes. Hein, ils sont 27% sans emploi. Voilà, en 4 ans, il y a eu 300 000 personnes qui ont déjà immigré parmi les 18-24 ans, donc et puis une personne sur deux qui envisage de quitter le pays. Hein. C'est vraiment un bel avenir pour le pays qui commence à avoir une très belle diaspora. Faudra ajouter à cet inventaire à l'après-vert, hein, quand même une cerise sur le gâteau, c'est que bizarrement la dette nationale qui avait explosé, hein, elle était passée de 25 à 91% du PIB entre 2007 et 2010, donc le temps de crise, hein, bah, au lieu de diminuer, ben, c'est encore accru hein, sous le contrôle de la Troïka. Maintenant, elle est à 124% du PIB. Voilà. Et le PIB, donc, il est toujours en berne. Hein. Il est 12,6% inférieur à celui d'avant la crise. Donc, vraiment, ça a pas marché du tout, quoi.
Oui, enfin, bon, concernant l'immigration, l'Irlande a un passé assez important aussi. Hein. Non seulement les Irlandais ont payé très très cher et vont continuer à payer pendant très très longtemps, mais en plus, les sacrifices n'auront servi à rien.
À rien, voilà, rien n'est moins sûr, quoi. Alors, il y a Andy Storey, hein, qui est un sociologue et économiste à l'University College of Dublin, qui est aussi un militant d'attaque, hein, donc lui dit, je le cite, hein, l'argent que les contribuables européens ont prêté à l'Irlande a été en grande partie détourné vers le remboursement de la dette privée socialisée dont les citoyens ordinaires, en Irlande ou ailleurs en Europe, n'auraient jamais dû avoir la charge. La dette illégitime est au cœur de cette crise. Depuis 2008, donc, c'est à peu près 670 milliards d'euros d'aides directes ponctionnées sur les États qui ont été données aux banques européennes. Ce sont d'énormes sommes d'argent public détournées le plus légalement du monde pour sauver un secteur financier sans scrupule.
Bon, bah, la question classique, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Rien. Non. Il paraît que, quelque part, hein, une petite association œuvrerait pour la mise en place d'une taxation des transactions financières et que même la Commission européenne serait pour. Bon, si le gouvernement français arrêtait d'en affaiblir sans cesse la portée. Il devient urgent de démanteler les banques jugées trop importante pour faire faillite, too big to fail. À moyen terme, le secteur bancaire devrait se limiter à sa tâche essentielle, donc la gestion des dépôts et des prêts, sans servir des intérêts privés. Bon, il paraît que c'était dans le programme de campagne de l'actuel locataire de l'Élysée. passons. Une coordination européenne des politiques fiscales et économiques serait aussi une bonne idée, voire internationale, en ce qui concernerait par exemple l'impôt sur la fortune, hein, n'en déplaise à nos chers exilés belgos, suissos, russos, patagons et autres. Hein. Et enfin, bon, il faudrait aussi savoir dire bah merde aux politiques d'austérité, à ces instances qui ne nous représentent pas et qu'on n'a jamais élues, leur désobéir, ainsi qu'à tous ceux qui mitonnent des pactes de compétitivité pour que rien ne change et laisser la place donc à des programmes d'investissement public par le peuple et pour le peuple. Voilà, il paraît que c'est un fondement de la démocratie. Étonnant, non ?
Bah merci Sylvie, hein. Musique.
McCormick and Richard Tauber are singing by the bed. There's a glass of punch below your feet and an angel at your head. There's devils on each side of you with bottles in their hand. You need one more drop of poison and you'll dream of foreign lands. When you pissed yourself in Frankfurt and got sipped down in Cologne, and you heard the rattling death trains as you lay there all alone. Frank Ryan bought you whiskey in a brothel in Madrid, and you text some fucking black shirt who was cursing all the yids. And a sick bit of Coot Cullen will kneel and say a prayer, but a ghost are rattling at the door and the devil's in that chair. They used in tavern, you screamed it was your shell, but I wouldn't give you service, so you kicked the windows out. They took you out into the street, kicked you in the brains, so you went back in through a bolted door and did it all again. And a sick bit of Coot Cullen will kneel and say a prayer, and the ghosts are rattling at the door, and the devil's in that chair. Hey! Remember that foul evening when you heard the banshees howl? There was lazy, drunken bastards singing Billy in the Bell. They took you up to midnight mass and left you in the lurch. So you dropped a button in the plate and spewed up in the church. Now you sing a song of liberty for blacks and packs of jocks, and I'll take you from this dump here and I'll stick you in a box. Then I'll take you to the prior and shove you in the ground, for you stick your head back out and shout, we'll have another round. At the grace of that Coot Cullen, we'll kneel around and cry, and God is in his heaven and Billy's down by the bay.
Ok, donc Sylvie, pour cette deuxième partie, tu voulais nous parler des groupes de travail.
Ouais, je voulais parler du fonctionnement interne d'Attaque Pays d'Arles, voilà, et surtout ce qu'on appelle donc les groupes de travail. En fait, hormis pour les rendez-vous ponctuels, donc liés à une action, une conférence débat, projection d'un film, les adhérents d'Attaque Pays d'Arles se rencontrent surtout lors de notre réunion mensuelle, donc la plénière, qui tient aussi lieu de conseil d'administration. 2 heures par mois, c'est pas suffisant pour monter ensemble des actions, discuter, débattre entre nous ou simplement papoter. Bon, même si pour papoter, il y a effectivement le point rencontre du marché, hein, c'est un samedi sur deux où les camines attaquent, donc ça c'est environ 3-4 fois par an. On a aussi un bureau collégial pour les tâches administratives et la trésorerie, mais c'est pas une instance de décision, voilà, ni de débat.
Et alors ?
Eh ben, il est évident que le comité d'attaque Pays d'Arles a du mal à se contenter d'uniquement relayer les grandes thématiques du national en les déclinant localement. D'abord, voilà, on veut comprendre de quoi il s'agit, se l'approprier, partir ensuite dans une direction qui est même pas forcément la direction attendue. Un peu à l'image de cette pelote de laine, là, qu'on démêle et qui donne des petits bouts de fil, là, sur lesquels on a envie de tirer. Ensuite, Attaque Pays d'Arles, elle aime bien proposer un autre regard sur le monde qui nous entoure, organiser des conférences, des débats, proposer des films, donc récemment aussi une pièce de théâtre. Tout ça, ça demande de l'investissement personnel, des recherches, de croiser des données, rencontrer des gens, voilà, un peu de temps disponible, ce qui serait pas vraiment possible dans le temps imparti par la réunion mensuelle. Alors, on a pris l'habitude de fonctionner dans ce qu'on appelle des groupes de travail, hein. C'est du travail collectif en interne, en quelque sorte, quoi.
Tu nous en expliques le fonctionnement ?
Alors, ben, y a rien qui est fixé, hein, mais en gros, ça prend plus ou moins deux formes. Bon, la première, c'est, ça concerne des adhérents qui s'interrogent sur un sujet, hein, ils se regroupent pour débattre et travailler ensemble. Alors, c'est essentiellement des sujets qui peuvent pas être simplement décryptés lors de nos réunions mensuelles, parce que ça demande un temps de réflexion long, ou alors une action continue sur la durée, ou bah, tout simplement parce que ça n'a pas été évoqué en plénière. Quelque part, voilà, c'est le moyen le plus naturel de travailler ensemble à partir de moments où au moins deux adhérents s'intéressent au sujet, quoi. Une autre forme, par contre, elle est plus, allez, je vais dire institutionnel ou institutionnalisé. Voilà, ça passe plutôt par un appel au volontariat dans le cadre d'une proposition d'action ou pour organiser un événement, une conférence. Voilà, ça va demander une petite équipe pour rendre l'action possible. Voilà, en gros, s'il n'y a pas d'équipe, hein, il n'y a pas d'action. Donc.
Ok. Et un bon exemple pour illustrer tout ça ?
Ben, je vais t'en donner quatre. Premier exemple, donc c'est des adhérents qui souhaitaient travailler ensemble sur une thématique, voilà, qui est jamais abordée en plénière, les murs. Donc ces murs invisibles et visibles qui séparent, excluent, qui scindent des territoires, qui classent ou déclassent des humains. Donc à cinq personnes, ils ont réalisé une petite étude sur les murs. Donc ils les ont positionnés dans l'espace, dans le temps, voilà, ils ont ouvert toute une réflexion. Tous ces travaux donc sont consultables sur le site d'Attaque Pays d'Arles. Faut aller à la rubrique campagne et action. Un deuxième exemple, donc, partie de ce qui était la problématique de l'eau, donc, c'est des adhérents qui ont décidé de se regrouper et d'investir les lieux institutionnels de démocratie participative pour défendre les intérêts des collectifs, hein, contre les grands marchands d'eau, donc contre Suez et Veolia. Aujourd'hui, ils sont inscrits à l'AGLO, à la CCM, qui a la compétence de l'eau, pour ils travaillent sur un retour en régie. Et puis par la suite, ce groupe a continué et ils se sont installés dans les instances consultatives, donc sur vraiment du long terme et puis sur d'autres batailles aussi.
Oui, oui, une des batailles les plus récentes a été la restauration collective à Arles, où la présence dans les CCSPL, présence continue et pugnace, a pesé sur le choix de la ville de quitter la Sodexo pour créer une régie.
Voilà, par exemple, ouais. Troisième exemple de ce que pourrait être un groupe de travail, donc ça a été suite à l'appel national des CAC, hein, comité pour un audit citoyen de la dette. Il y a des adhérents qui sont questionnés sur le fonctionnement des budgets, hein, des administrations territoriales, et puis ils ont décidé de réaliser par eux-mêmes, avec une petite calculette, un travail d'audit sur les budgets du territoire, donc Arles, Tarascon, Saint-Martin-de-Crau, la CCM, etc. Ils ont même essayé l'hôpital d'Arles, mais bon, là, les données étaient un peu difficiles. Et donc, ils réalisent cette audit depuis 2012. Et puis, je vais te donner un dernier exemple, donc qui correspond à l'autre situation. S'il n'y a pas de groupe qui se crée, l'action ne se fait pas. C'est par exemple l'Alter 14 juillet avec les Suds à Arles. Donc, il y a une équipe de volontaires qui se constitue chaque année pour proposer et organiser la tenue de la projection du film et du débat. Donc, en 2012, c'était ces Français restés en Algérie. En 2011, les peuples en révolution. Et l'année dernière, donc, c'était Amour, normes et société.
Oui, donc on aura compris à travers les quatre exemples que tu viens de donner que la constitution des groupes de travail rend possible l'organisation d'événements, possible la réflexion, l'information plus poussée sur une thématique ou son décryptage, et élargit le champ d'action du comité local. Mais c'est tout ?
Bah, si tu veux, c'est tout. Ouais, l'intérêt est un peu ailleurs, ouais. En effet, il faut surtout ajouter le fait qu'on y apprend beaucoup en faisant par nous-mêmes. Alors, c'est quelque part quand même plus efficace que simplement participer à une conférence. Voilà, on se trouve souvent passif, quelle que soit la qualité du contenu de la conférence, hein, ça n'a rien à voir. Du coup, aussi, on comprend mieux ce que dit un conférencier, voilà, parce qu'on a déjà travaillé le sujet. Il y a un autre intérêt aussi, c'est qu'on apprend à travailler dans ces groupes ensemble, à déléguer, se répartir les tâches. Voilà, c'est pas toujours évident. Et puis, on apprend aussi à écouter, réfléchir sur ce que les autres disent, proposent, ce à quoi on n'avait pas forcément pensé.
Oui, on apprend en faisant. On s'enrichit soi-même et on s'enrichit les uns les autres.
Voilà, voilà. Donc, je t'ai cité quatre exemples, mais il y a d'autres groupes de travail qui existent. Hein. Il faut savoir que soit ils sont internes à Attaque, donc faits par des adhérents, mais il y a des groupes, le groupe d'audit de la dette, par exemple, il est ouvert aux non-adhérents d'Attaque. Hein. Voilà, puis ça se trouve au moment où je parle, il y a des groupes de travail qui sont peut-être en train de germer. Et puis pourquoi pas, hein, à l'écoute de cette émission, peut-être que des auditeurs de 3DFM sont en train de se dire que ce serait une super bonne idée là d'en créer un, tu vois, sur ce sujet-là, voilà.
Dans le bleu de nos mains sales, se cache un diamant. La peau brune des gitanes, si tu l'allumes, faudra que tu la fumes. Fume, fume et pédale à patinette dans les nuages là-haut. En général, j'ai le cortex qui roule en solex. La silhouette un peu bancale emporte à faux le sillon en diagonale. Faut que tu m'excuses, j'ai le tambour qui s'use. J'ai la matière grise d'une souris grise qui s'appelle la Marie, la mala, Marinette. Marie la mamamie, mon petit pois, ma crevette. Je n'ai vraiment que toi, Marie ma Marinette. Marie, Marie, maman, ciboulot, mamillette. Quand Marie, 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 Marinette se met à penser des fois, vaut mieux filer plutôt que de perdre la tête. Surtout qu'il reste encore beaucoup à faire pour terminer cette chanson. On y reviendra plus tard, mais dans l'immédiat, continuons. Un brin de métaphysique et claque sonne la java neuroleptique. Tic 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 tic. Dans nos vies souvent banales, on se dit souvent bazardons nos états d'âme. Un coup de pif qu'on se met dans le pif.
Pif.
Et papa fait sa pédale à trottinette très non nos mots ancestraux. C'est ridicule, si t'avances tu recules. Faut plus que j'y touche, j'ai les fils qui estouchent. Les fils de la Marie, la mala, Marinette. Marie la mamamie, mon petit pois, ma crevette. Je n'ai vraiment que toi, Marie ma Marinette. Marie, Marie, maman, ciboulot, mamillette. Même Marie, 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 Marinette se met à penser tout le temps, je pourrais pas tenir, c'est trop pour moi, faut qu'elle arrête. Surtout qu'il reste encore quelques salades à débiter dans ma chanson. C'est un métier sérieux de préparer le bourguignon. Chanson, un gratte-poil, mille et mille pardons. Les éprouvettes prouveront que l'on est des bêtes. On fera le calcul, compris nos poils de cul.
Eh bien, donc nous arrivons à la troisième partie de cette émission, l'agenda d'Attaque. Sylvie, tu vas nous dire ce que Attaque Pays d'Arles a préparé pour ce mois de février.
Alors en février, d'abord, ben, nous avons la traditionnelle plénière, donc premier lundi de chaque mois, sauf que celui-là, il sera le deuxième. Donc ce sera le 10 février, de 20h à 22h, à la Maison de la Vie Associative. On a un autre rendez-vous, donc si le temps s'y prête, ce sera sur le marché, donc ce sera le samedi matin de 10h à midi, le 15 février. Et puis, vous pourrez nous retrouver peut-être à la CNCL, donc Commission Nationale des Comités Locaux d'Attaque, à Paris, les 8 et 9 février.
Quoi, c'est tout? Mais Attaque Pays d'Arles est en vacances ou quoi?
Non, bah, y a pas grand-chose en février. Bah, d'abord, il fait froid et puis ensuite, il pleut. Voilà, on a tout concentré sur mars, hein, notamment une conférence débat avec la LDH, donc ce sera le mercredi 12 mars à 18h30 à l'Amphi Van Gogh. Donc c'est sur la société inégalitaire avec Dominique Guibert. Bon, on en parlera à la prochaine émission. Mais par contre, ça me laisse le temps de faire un détour par les luttes en cours.
Eh bien, allons-y.
Alors tout d'abord sur Arles, un collectif de solidarité avec les Roms s'est créé, comme il en existe dans tout le département. Hein. Il y en a à Aix-en-Provence, Gardanne, Martigues. Bon, il y en a aussi chez nos voisins Nîmois, Montpelliérain ou Biterrois. Bref, partout où des hommes et des femmes refusent l'indifférence ou le rejet d'une population Rom qui aurait, donc selon les propos de notre impayable ministre de l'Intérieur, vocation à revenir en Roumanie ou Bulgarie. Pour en savoir plus, donc, je vous propose d'écouter et réécouter sur les ondes de 3DFM cette excellente émission de nos confrères de la LDH. C'était l'émission du vendredi 17 janvier. Je continue aussi en local avec un peu plus loin la lutte des Fralib à Gémenos, libérer l'éléphant. Il y a déjà eu plusieurs actions de boycott, les 7 décembre 2013 et 18 janvier 2014, voilà, mais c'est pas fini, donc le mieux c'est d'aller sur leur page Facebook Libérer l'éléphant, donc a été créée pour pouvoir suivre la lutte.
Oui, et encore plus loin, mais tout à côté quand même, ça continue aussi pour Notre-Dame-des-Landes. L'aéroport, c'est toujours non. Le rendez-vous, le prochain rendez-vous, c'est le samedi 22 février à 13h devant la préfecture de Nantes.
Et enfin, donc, il y a une action qui s'appelle « Traquons les banques et les multinationales », donc avec un kit anti-requin, ainsi que des autocollants à commander sur le site d'attaque. Donc, les pré-requins, c'est pour traquer la BNP Paribas, Unilever ou notre ami la Société Générale. C'est important, il y aura une action le 15 mars. Et de toute façon, d'autres luttes en cours donc sont accessibles sur le site d'attaque France.
Pour terminer cette partie agenda, est-ce que tu peux nous conseiller une lecture pour ce mois-ci, pour se tenir au chaud en février?
Oui, eh bien je recommande chaudement donc le dernier numéro de l'excellent magazine Manière de voir de nos amis du monde diplomatique qui traite du dossier épineux du juteux marché des libertés surveillées. Une thématique qui nous est chère. Ça s'appelle donc « Souriez, vous êtes surveillé ». Donc c'est 8,50 € chez vos marchands de journaux. Voilà, on arrive maintenant à cette partie traditionnelle en forme de petite devinette. Jérôme, attention, qui a dit « Les États-Unis sont un pays démocratique avec une justice indépendante. Snowden est un agent des services américains et c'est un pays ami avec lequel nous avons des relations. Si cette demande d'asile est faite, elle sera toutefois examinée. »
Alors, attends, États-Unis, démocratie, indépendant, pays ami, c'est James Cameron, ça.
Alors, je t'aide, ça n'a pas été traduit, ça a été fait en français.
Oui, bien entendu, c'est Manuel Valls.
Oui, c'est Manuel Valls. Donc, c'était le jeudi 4 juillet, dans la matinale Bourdin Direct de BFM TV. Donc, on peut voir d'ailleurs l'interview sur le site de BFM TV. Il y précise aussi que la France, contrairement au dire de Wikileaks, n'a pas reçu de demande officielle de la part de Snowden pour une demande d'asile, ce qui sera par ailleurs contredit dans la journée par un communiqué laconique de Monsieur Manuel Valls, donc en tant que ministre de l'Intérieur. Qui dira le communiqué, la France a reçu, comme beaucoup d'autres pays, par l'intermédiaire de son ambassade à Moscou, une demande d'asile de M. Edward Snowden. Compte tenu des éléments d'analyse juridique et de la situation de l'intéressé, il n'y sera pas donné suite. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le contexte de cette phrase. Parce que l'avant-veille, le 2 juillet 2013, la France interdisait brutalement son espace aérien à l'avion du président bolivien Evo Morales. Ce, malgré un plan de vol en bonne et due forme, en raison de rumeurs donc qui disaient que Edward Snowden se trouvait à bord de l'appareil. Donc empêché de survoler la France, l'avion du président bolivien aussi était empêché de survoler l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Finalement, il arrivera à atteindre Vienne, où il restera bloqué près de 14 heures. Voilà, alors c'est un peu rocambolesque, mais son récit a été publié dans Le Monde diplomatique d'août, sous le titre « Moi, président de la Bolivie, séquestré en Europe ».
Oui, ça paraît absolument hallucinant. Finalement, il n'y a qu'une seule chose à retenir dans cette phrase de notre irremplaçable ministre de l'Intérieur. Les États-Unis, c'est un pays ami avec lequel nous avons des relations. Et à ce niveau-là, ils ont donc le droit de tout faire.
Et voilà. Voilà, voilà. Eh bien, sur ce, il ne nous reste plus qu'à nous dire donc au revoir. Au revoir Jérôme.
Au revoir Sylvie.
Et rappelez donc que cette émission sera rediffusée le jeudi 20 février de 20h à 20h30. Au revoir.
C'était Un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles. On se retrouve le mois prochain, le premier mercredi du mois, de 18h10 à 18h40, sur 3DFM. À bientôt!
Bon, voilà. C'est bon.
C'est bon quand même.